La Bible a aussi désigné l'époque où nous vivons comme étant la plus significative dans l'accomplissement des desseins du Créateur envers la race humaine. En faisant allusion aux derniers jours, que sont ces derniers jours de la prophétie? Nous voulons discuter ici cette question et d'autres qui s'y rapportent en examinant le livre d'Osée. Cette série de programmes d'études de la Bible vous est présentée par l'Association des étudiants de la Bible qui publie la revue Aurore.
Merci Thomas. Comme tu le dis, la base de notre discussion d'aujourd'hui sera le livre d'Osée. Osée est le premier des petits prophètes de l'Ancien Testament. Il y a en tout 12 petits prophètes de l'Ancien Testament.
Je suppose, Pierre, qu'on les appelle prophètes mineurs parce que leurs écrits sont moins longs que ceux des prophètes majeurs. Ces différents livres prophétiques de l'Ancien Testament sont-ils classés par ordre de vie de ces prophètes?
Pas toujours, Thomas. Osée vivait avant Daniel, dont nous avons discuté des prophéties la semaine dernière. Daniel fut l'un des captifs menés à Babylone quand la nation d'Israël fut vaincue par le roi Nebuchadnezzar, et Osée fut l'un des prophètes qui prédit la calamité qui accablerait son peuple. Une grande partie des paroles d'Osée sont dirigées contre les péchés d'Israël. Il les avertit des châtiments qui s'abattraient sur leur peuple à cause de leur infidélité à Jéhovah et leur adoration des faux dieux.
Mais Pierre, la prophétie d'Osée ne contient pas que ces condamnations, n'est-ce pas?
Loin de là, Thomas. Pour Osée, comme pour les autres prophètes de l'Ancien Testament, ce qu'ils écrivaient au sujet des circonstances et des événements locaux n'avait qu'une importance secondaire comparée à leur prophétie lointaine concernant l'accomplissement du plan divin pour la rédemption ultime d'Israël et du monde entier, afin de les délivrer du péché et de la mort. Or, on en trouve un exemple au chapitre 3, versets 4 et 5.
Je vais lire ces versets. « Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphod et sans théraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps, au dernier jour. » Pierre, David n'était-il pas mort longtemps avant que cette prophétie fût écrite?
Oui, naturellement.
Comment alors les Israélites pouvaient-ils le rechercher au dernier jour, comme Osée l'affirme?
Le temps actuel, il y est fait allusion comme les derniers jours, et c'est celui où le grand plan de Dieu pour la restauration de la race humaine à la vie sur la terre s'accomplira. Dans ces derniers jours, donc, les morts seront rendus à la vie, y compris David, qui alors sera une fois de plus associé à son peuple. Cependant, il y aura un accomplissement plus large de la prophétie, car David est cité dans la Bible comme un type de Christ, le Messie de la promesse, celui qui sera roi d'Israël et du monde entier dans ces derniers jours.
Il semblerait alors que les derniers jours des prophéties ne seront pas une période de condamnation pour la race humaine.
Loin de là, Thomas. Les derniers jours de la prophétie verront la restauration complète de la race humaine à la perfection de la vie, comme êtres humains dans un paradis rétabli.
Alors Pierre, cela veut dire la fin de la mort elle-même, n'est-ce pas?
Oui, Thomas. Et c'est là le témoignage de tous les saints prophètes de Dieu. Osée en particulier insiste sur ce fait dans sa prophétie. Une promesse merveilleuse à cet effet est rapportée dans le 13e chapitre, verset 14 de sa prophétie. Voudrais-tu la lire?
Certainement. Le texte dit « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, je serai ta peste, séjour des morts, je serai ta destruction. » Pierre, que veut dire l'expression « Je les rachèterai de la puissance du sépulcre » ?
Cela, Thomas, c'est une expression des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament d'envoyer un rédempteur, celui qui mourrait comme rançon pour Israël et le monde entier. Quand nous passerons au Nouveau Testament, nous apprendrons que cette œuvre de rédemption a été accomplie par Jésus.
Je me souviens aussi que le prophète Ésaïe en a parlé dans sa prophétie. Il a prédit que le Rédempteur serait conduit comme un agneau à la boucherie, je crois.
C'est juste. Tu as cité le 53e chapitre de la prophétie d'Ésaïe, et dans ce même chapitre, le prophète a prédit que Jésus verserait son âme dans la mort et offrirait son âme pour le péché.
Et d'après ce texte que j'ai lu dans la prophétie d'Ésaïe, cette œuvre de rédemption de la part de Jésus aura comme résultat ultime la destruction de la mort. Est-ce bien cela?
Exactement.
Pierre, c'est merveilleux. Et je remarque que dans le texte que je lis, le Seigneur dit « Ô mort, je serai ta peste ». Qu'est-ce que cela veut dire?
Ceci me rappelle l'époque rapportée dans le livre de l'Exode, où le Seigneur frappa les Égyptiens pour qu'ils accordent la délivrance au peuple dans l'esclavage en Égypte.
Ainsi le Seigneur détruira la mort afin d'amener la délivrance de ses prisonniers.
C'est cela. C'est une belle image par laquelle le Seigneur nous assure que lorsque le temps sera venu, il rendra la vie aux morts et leur donnera l'occasion de vivre à jamais.
Pierre, il est surprenant de constater combien souvent l'Ancien Testament fait des promesses pour la résurrection des morts. Mais il y a une autre assertion dans ce texte qui paraît très intéressante. Le Seigneur dit « Ô sépulcre, je serai ta destruction ». Cela, je suppose, signifie la destruction de la mort.
Oui, Thomas. Et dans un certain sens, cela signifie bien plus que cela.
Que veux-tu dire?
Eh bien, le mot hébreu traduit le sépulcre par « Sheol ».
C'est le mot qui, dans l'Ancien Testament, est souvent traduit par « enfer », n'est-ce pas?
C'est juste. Quelquefois, il est traduit par « enfer » et l'autre fois, il est traduit par « sépulcre ». Le fait est que le « Sheol » est le seul « enfer » mentionné dans l'Ancien Testament.
Et dans le texte du prophète Osée, le Seigneur a promis de détruire l'enfer. Pierre, il me semble que cette vérité est affirmée avec puissance dans la Bible.
Certainement, Thomas. Elle est révolutionnaire en ce qu'elle a rapport aux traditions de l'âge des ténèbres. Les chrétiens peuvent avoir des points de vue différents quant à l'enfer de la Bible, mais ici se trouve une promesse précise de Dieu, celle de détruire l'enfer, ce qui veut dire que l'enfer n'existera pas éternellement.
Les promesses de Dieu sont sûrement merveilleuses, Pierre. Je me souviens que lorsque nous avons passé en revue le livre des psaumes, nous avons trouvé une prophétie de la mort et de la résurrection de Jésus, où il était dit que Dieu ne laisserait pas son âme en enfer. Le mot enfer dans cette prophétie était-il aussi une traduction du mot Sheol?
Oui, comme je te l'ai dit, c'est le seul mot de l'Ancien Testament qui signifie sépulcre et qui a été traduit par enfer.
Le fait que l'âme de Jésus est allée en enfer signifie-t-il quelque rapport avec le plan de Dieu de racheter les hommes du pouvoir du sépulcre, du pouvoir du Sheol?
Absolument, Thomas. Comme nous l'avons appris en étudiant le récit de la création dans la Genèse, nos premiers parents ont péché et furent condamnés à mort.
Et quand ils moururent, ils allèrent au Sheol, l'enfer de la Bible, n'est-ce pas?
C'est juste. Tous les enfants d'Adam naquirent dans cette condition imparfaite. Et tous, en mourant, sont allés dans l'enfer de la Bible, le Sheol. Ainsi, lorsque Jésus mourut pour prendre la place du pécheur dans la mort, lui aussi alla dans l'enfer de la Bible.
Pierre, ainsi qu'il m'en souvient, la prophétie du psaume 16 parle de Jésus en enfer. Il indique que c'était seulement son âme qui alla en enfer, n'est-ce pas?
Oui, mais il est erroné de dire que c'est seulement l'âme de Jésus qui alla en enfer quand il mourut. L'âme, d'après la Bible, est l'être tout entier. Nous l'avons appris, tu t'en souviens, dans notre examen du livre de la Genèse, dans le texte qui nous dit comment le Seigneur avait créé la première âme. Genèse, chapitre 2, verset 7. Pour nous rafraîchir la mémoire, peut-être ferais-tu mieux de lire le passage.
C'est une bonne idée, Pierre. Le texte dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. »
Tu vois, Thomas, la partie importante de ce texte, c'est que l'homme devint une âme vivante, non pas que Dieu lui donna une âme qui pourrait vivre en dehors du corps. C'est l'union du souffle de vie avec l'organisme qui fait une âme vivante ou un être vivant. Et Thomas, c'est là le sens du mot « âme » toutes les fois qu'il est mentionné dans la Bible.
Ce qui veut dire que Jésus, en tant qu'être ou personne, est dans l'enfer de la Bible, c'est-à-dire dans la mort, afin de sauver l'homme de la mort.
C'est juste. Et c'est par ce fait prévu dans le plan divin de rédemption que tous les prisonniers de la mort seront libérés. Et, comme le prophète Osée nous l'assure, la mort ou l'enfer même seront détruits.
Pierre, comme tu nous le disais au début, la prophétie d'Osée est bien plus que le message de calamité temporaire tombant sur la nation d'Israël, car il assure qu'Israël et le monde entier seront délivrés de la captivité de la mort par une résurrection d'entre les morts.
Oui, Thomas. Et ce fait est clairement établi dans le numéro Aurore traitant de ce sujet. Le royaume de Dieu victorieux. Il passe en revue le livre d'Osée et plusieurs autres livres prophétiques de l'Ancien Testament. Veux-tu, je te prie, parler à nos amis de cet article « Le royaume de Dieu est victorieux » et leur dire comment ils peuvent le recevoir gratuitement?
Avec plaisir, Pierre. Mes amis, le numéro de la revue Aurore traitant le royaume de Dieu est victorieux est le troisième d'une série qui médite toute la Bible et son enseignement. Ne manquez pas de demander immédiatement votre exemplaire. Il n'y a aucune obligation. Ce troisième numéro de la série examine les prophéties de Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas et Michée. Vous prendrez plaisir à chaque ligne de cet écrit car il appelle votre attention sur les merveilleuses prophéties qui s'accomplissent en ce moment dans les événements actuels qui se succèdent avec rapidité, et les promesses rassurantes de Dieu concernant le prochain établissement de son royaume longtemps promis. Que dit la Bible au sujet de l'augmentation phénoménale de connaissances humaines réalisées en ce dernier siècle? Où sont les morts? Qu'est-ce que l'enfer? Que sont les derniers jours? La prophétie d'Ésaïe? Quel sens les prophéties donnent-elles à l'existence du nouvel État d'Israël? Quand les nations transformeront-elles leurs épées en socs de charrues? Les prophéties et les promesses de Dieu généralement négligées sont mises en lumière dans l'article « Le royaume de Dieu est victorieux ». Demandez immédiatement votre exemplaire. Demandez le petit livre « Royaume ». Demandez simplement « Royaume ». Ce petit livre vous sera envoyé gratuitement et franco de port. Cette étude de la Bible vous a été présentée par l'Association des étudiants de la Bible Aurore qui publie la revue Aurore, en coopération avec les groupes d'études de la Bible et leurs amis de partout. Nous serons avec vous de nouveau la semaine prochaine. Dites-le à vos amis et que Dieu vous bénisse tous.